La vie en bleu, 100% solidaire.
Et on parle santé aujourd'hui.
Et oui, on peut absolument parler santé sans parler coronavirus, car d'autres pathologies n'attendent pas, d'autant que ces pathologies peuvent être amplifiées par les conséquences du confinement. Les accidents vasculaires cérébraux sont la première cause de mortalité en Nouvelle-Aquitaine, avec 18 000 AVC par an et près de 2 000 morts. AVC, nous sommes tous concernés, c'est notre sujet dans l'émission, votre émission La Vie en Bleu 100% solidaire ce matin. Est-ce que vous avez déjà eu un AVC? Est-ce que ça a changé votre vie quotidienne depuis cet accident? Comment vivez-vous avec votre diabète? Est-ce que vous êtes attentif par exemple à votre taux de cholestérol? On sait que c'est un facteur aggravant pour l'AVC. Est-ce que vous soignez votre hypertension? Que vous soyez en Charente, Charente-Maritime, Vienne ou Deux-Sèvres, cette émission est la vôtre et vous témoignez quand vous voulez au 05 46 35 24 40.
La vie en bleu, 100% solidaire, Frédéric Gissot.
Bonjour François Rouanet.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au CHU de Bordeaux et vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Pourquoi c'est important en ce moment, début mai, on est à la fin du confinement, mais ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est confiné, de parler de l'AVC?
Alors c'est important de parler de l'AVC tout le temps, je dirais, hein, pour un peu rebondir sur ce que vous venez de dire, mais ça l'est effectivement particulièrement maintenant, et surtout depuis mi-mars, puisqu'au début du confinement, ce à quoi on a assisté, c'est à une espèce de sidération de tout le monde. Plus personne ne bougeait, plus personne ne venait aux urgences, et notamment les patients qui avaient fait des accidents vasculaires cérébraux, on ne les voyait plus arriver dans les services d'urgence, ce qui nous a beaucoup inquiétés.
D'où cette opération que vous lancez en ce moment pour sensibiliser, pour alerter, pour prévenir des accidents vasculaires cérébraux. Ça fait quand même beaucoup de personnes concernées à l'échelle nationale.
Oui, c'est un problème de santé très, très important. On considère qu'il y a en France entre 120 et 150 000 AVC tous les ans. Et c'est aussi une cause de décès très importante, hein, puisqu'il y a entre 20 et 30 000 morts par accident vasculaire cérébraux tous les ans. Donc, et ça, on les a tous les ans, qu'il y ait le coronavirus ou qu'il ne soit pas là, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on dit 120, 150 000, on a un peu de mal à imaginer ce que ça représente, 120 000 personnes. Mais pour ceux qui vont, qui suivent les matchs de foot ou de rugby, 120 000 personnes, c'est deux fois le Stade de France plein. Et donc, c'est ça, le nombre d'AVC en France.
Et là, ça nous fait une image effectivement concrète. Est-ce que vous avez l'impression que cette année 2020 sera une année avec des chiffres en hausse, justement en raison de ce qui vous inquiétait et que vous venez de nous dire il y a quelques minutes, cette sidération qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu un AVC et qui n'ont peut-être pas été aussi rapidement que nécessaire vers les urgences?
C'est effectivement ce que l'on craint. Ce que l'on craint, c'est surtout de voir arriver un phénomène rebond. Tout un tas de personnes qui ont fait, pendant la période de confinement, un accident vasculaire cérébral mineur, peu important. Et ces patients-là, s'ils consultent pas, sont exposés à en faire un second par la suite. C'est ce qu'on appelle les accidents transitoires. Ce sont des patients qui font des signes neurologiques, des signes d'AVC, mais qui récupèrent tout seuls et très vite. Et s'ils consultent pas, ils peuvent pas bénéficier d'un traitement pour éviter la récidive. Et la récidive n'est pas rare. Donc on craint effectivement qu'il y ait une deuxième série d'accidents vasculaires cérébraux qui surviennent à cause du confinement.
Ces accidents vasculaires cérébraux, il y en a des légers. Vous venez de dire certains patients se remettent quasiment tout seuls. C'est pour ça qu'il y a eu moins de consultations, parce que tout le monde craignait de sortir et d'engorger les services d'urgence. Ça peut aller jusqu'à l'AVC très très handicapant. Il y a vraiment toute une palette de conséquences de l'AVC.
Absolument, absolument. On a toute la gamme de sévérité de l'accident neurologique mineur, où la personne va présenter des signes d'AVC mais va récupérer très vite, à la personne qui va avoir un accident d'emblée très grave, même éventuellement mortel, et qui gardera éventuellement des séquelles tout à fait importantes sous la forme d'une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie de tout un côté du corps, et le rendant totalement incapable d'assurer ses activités quotidiennes, ne serait-ce que de faire sa toilette, de s'habiller, de manger tout seul, et donc avoir besoin d'aide au quotidien. C'est pour ça que l'accident vasculaire cérébral est une maladie très sévère et est un vrai problème de santé publique, parce que ça impacte non seulement le patient, mais aussi ça a des conséquences sur sa famille et son entourage.
Est-ce que le confinement, qui a eu un impact certain sur le moral des uns et des autres, peut avoir des conséquences sur l'arrivée d'un AVC ?
Pour l'instant, on ne le sait pas. Des études sont en train de se mettre en place. On a déposé un projet de recherche sur ça avec nos collègues cardiologues qui ont eux aussi fait le même constat que nous. Ils voyaient moins d'infarctus du myocarde pendant la période de confinement, en tout cas au moins au début. Et donc on se pose effectivement ce genre de questions. Quels sont les facteurs qui expliquent qu'on a vu moins d'AVC au tout début de la crise Covid et quelles seront les conséquences dans les 6 mois ou l'année qui vient sur le nombre d'AVC? Quel est l'impact psychologique de ce confinement? On parle beaucoup de syndrome post-traumatique, hein, et je pense qu'effectivement, ça peut jouer sur le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Mais pour l'instant, on n'en a pas la certitude.
On verra ça avec un petit peu de recul. Les services de neurologie dans les hôpitaux, dans les CHU, ont poursuivi leur activité malgré le confinement, évidemment.
D'emblée, on s'est organisé pour individualiser au niveau des urgences où les patients arrivent, 2 circuits. Un circuit pour les patients suspects d'avoir le Covid, qui étaient isolés avec le personnel qui était protégé, et un circuit urgence, je dirais, classique. Et dès que le patient arrivait avec une suspicion d'AVC et pas de température et pas de tout, ben, il allait dans le circuit classique. Et on a des places, enfin, on fonctionnait normalement, mais ce que l'on a constaté d'emblée, au moins les 15 premiers jours, j'y reviens, c'est que vraiment, on voyait moins de la moitié du nombre d'AVC habituels. Hein. Donc les gens ne venaient plus, probablement par crainte d'être contaminés à l'hôpital ou de se trouver dans un service d'urgence complètement débordé, ce qui, pour notre région, n'a heureusement jamais été le cas. C'est vrai à Bordeaux, mais c'est vrai à La Rochelle, c'est vrai à Poitiers, c'est vrai à Niort, c'est vrai à Saintes ou à Angoulême. Toutes les unités neurovasculaires de la région poitevine n'ont pas été submergées. Alors là, l'activité maintenant a commencé à reprendre. Mais comme je l'ai dit, ce que les patients qui arrivent sont ceux qui finalement peuvent pas faire autrement que de venir à l'hôpital, alors que il nous manque encore tous les patients qui font les formes mineures et pour lesquels on a des capacités de prévention à leur proposer pour éviter une rechute.
On va parler dans un instant dans notre émission, votre émission La Vie en Bleu 100% solidaire, des symptômes de l'accident vasculaire cérébral. Et si vous avez envie de témoigner, vous avez eu un AVC, vous avez été très bien pris en charge, racontez-nous comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie au 05 46 35 24 44 ? Nous sommes ce matin en compagnie de François Rouanet, qui est neurologue au CHU de Bordeaux et vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Ça tombe bien, nous parlons ce matin dans La Vie en Bleu, 100% solidaire de l'AVC. Comment le prévenir? On a vu tout à l'heure avec vous, François Rouanet, que le confinement était quand même un facteur qui n'était pas très positif ni sur notre santé physique, ni sur notre santé morale, d'autant qu'il y a eu une baisse considérable des consultations pour les services de neurologie et les services d'urgence pour ces pathologies arrivées durant le confinement. Je voudrais qu'on parle maintenant avec vous des symptômes de l'accident vasculaire cérébral. Quand on n'a jamais eu d'AVC, qu'est-ce qui doit nous mettre en alerte?
Alors les signes d'alerte de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral, on va en retenir 3 principalement, même si il y en a bien d'autres, mais on va pas faire un cours de neurologie. C'est toujours quelque chose qui vient tout d'un coup. Et c'est brutal. Les signes apparaissent d'un seul coup. Pourquoi ? Parce que le cerveau est un organe qui a besoin d'être irrigué en continu, de recevoir un flux sanguin permanent pour pouvoir fonctionner. Et dès que l'artère du cerveau se bouche ou se déchire, qui sont les 2 causes d'accidents vasculaires cérébraux, bah la partie du cerveau qui est plus irriguée comme il faut tombe en panne immédiatement, comme la panne sèche sur la voiture. Et en fonction de la zone du cerveau qui n'est plus irriguée comme il faut, on va avoir des symptômes qui correspondent à ce que faisait cette partie du cerveau qui ne peut plus travailler normalement. Alors, pour venir aux signes, les principaux, il y en a 3, c'est quelqu'un qui brusquement va avoir une paralysie du visage ou la bouche de travers. Alors, pour tester ça, c'est très simple, il suffit de demander à la personne de faire une grimace ou un sourire. Si les 2 côtés de la bouche se contractent de la même façon, tout va bien. Si la bouche part de travers, c'est qu'il y a peut-être une atteinte du visage. Et dans ce cas-là, ce seul symptôme suffit à évoquer le diagnostic d'accident vasculaire cérébral si c'est venu brutalement. Et dans ce cas-là, il faut appeler le SAMU, le 15, pour que s'enclenche la chaîne de secours.
Est-ce qu'il y a une douleur quand on a cette paralysie du visage? Est-ce que c'est associé à une douleur? Ou est-ce que c'est indolore?
Non. Le plus souvent, il n'y a pas de douleur dans l'accident vasculaire cérébral. On l'a une fois sur cinq à peu près. Et c'est un élément qui fait que souvent, les personnes attendent. Puisqu'ils ont pas mal, bah, c'est peut-être pas si grave que ça. Donc, ils attendent, ils perdent du temps parce que, on le verra tout à l'heure, c'est vraiment le temps qui est le principal ennemi du patient qui a fait un AVC. Donc, il y a la douleur pas très fréquente. Le deuxième symptôme fréquent, c'est une difficulté à parler ou à comprendre ce que l'on dit. Donc, on va demander à la personne de répéter une phrase simple. Il fait mauvais aujourd'hui ou j'irai voir le grand pavois l'an prochain. Ce genre de questions. Donc, si la personne est capable de comprendre qu'on lui demande de répéter une phrase et qu'elle la répète comme il faut, c'est que tout va bien. S'il comprend pas ou s'il se trompe en répétant la phrase, c'est qu'il y a un trouble du langage. Il faut appeler le 15. Et dernier symptôme très fréquent, c'est une faiblesse ou une paralysie d'un bras, d'une jambe. Et donc là, avec le bras qui tombe, la jambe qui porte plus, la personne qui tombe par terre. Donc ça, c'est les trois symptômes les plus fréquents. Bouche de travers, du mal à parler ou à comprendre, et faiblesse du bras ou de la jambe. On en a quelques autres, donc qui peuvent être des troubles de l'équilibre, des troubles de la vue, mais qui sont moins fréquents.
Ça veut dire que si on a, on peut avoir les trois symptômes ou est-ce que un des trois suffit pour déclencher un appel vers le 15?
Un des trois suffit, mais malheureusement, un patient peut combiner les trois, c'est-à-dire avoir une paralysie du visage du côté droit, du bras droit, de la jambe droite qui est tout mou, et l'impossibilité de s'exprimer, ce qu'on appelle une aphasie, une perte complète du langage, et donc c'est ce qu'on appelle une hémiplégie droite avec aphasie, paralysie de tout le côté droit du corps. Mais un seul des symptômes suffit.
Voilà. Vous nous parliez ce matin aussi parmi les symptômes de l'accident vasculaire cérébral de la fibrillation ventriculaire. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors c'est la fibrillation auriculaire, mais c'est un petit détail. C'est une arythmie du cœur en fait. C'est une cause fréquente des accidents vasculaires cérébraux. C'est quand le cœur vieillit avec tout le reste de l'organisme, et le vieillissement du cœur fait que, au lieu d'avoir une bonne synchronisation des fibres musculaires du cœur, c'est-à-dire qu'elles se contractent tout en même temps et se relâchent tout en même temps, parce qu'il y a un chef d'orchestre qui leur donne le tempo, ce tempo est perdu et donc les fibres musculaires ne marchent plus au pas et se contractent un peu comme elles veulent. Et donc le cœur devient irrégulier. Et quand le cœur est irrégulier, au lieu de se vidanger complètement à chaque contraction, d'expulser tout le sang qui est dedans à chaque contraction, le sang peut rester dans les cavités du cœur. Et le sang qui stagne quelque part a tendance à faire des caillots. Et ce caillot qui peut se former dans le cœur à cause de l'arythmie peut ensuite partir dans la circulation et monter à la tête et boucher une artère du cerveau et déclencher l'accident vasculaire cérébral. C'est une cause fréquente d'accidents vasculaires cérébraux, oui.
Voilà, en plus, mais là c'est vraiment une maladie. C'est quelque chose qu'on peut anticiper si on va régulièrement voir son cardiologue, par exemple ?
Alors on peut anticiper ou détecter, chercher à savoir si on a ou non une arythmie du cœur et une fibrillation auriculaire en particulier, soit en apprenant à surveiller son pouls soi-même au niveau du poignet ou au niveau du cou, au niveau de la carotide, soit il y a maintenant des appareils en vente libre pour prendre la tension qui surveillent aussi le rythme du cœur, ça existe même sur les smartphones, et puis on peut aussi aller se faire détecter, alors dans la région on avait mis en place une campagne avec les pharmaciens, on peut le faire bien évidemment chez le cardiologue avec un électrocardiogramme.
Est-ce que ce genre de pathologie, les premiers signes d'un AVC, une fois qu'on s'est remis de cet AVC, c'est incompatible avec l'exercice physique, la pratique d'un sport ? Ou est-ce qu'au contraire, la pratique d'un sport, ça permet de recouvrer toutes ces facultés, c'est quelque chose qu'il faut favoriser ?
Alors, pratique d'un sport après un accident vasculaire cérébral, c'est peut-être pas le mot sport que j'utiliserai. Je dirais surtout activité physique. Pas forcément s'inscrire dans un club de foot, de rugby ou de marathon, mais pratiquer une activité physique quotidienne. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai avant l'AVC, c'est vrai après. On a montré que marcher au moins 30 minutes tous les jours permet de réduire le risque de faire un premier AVC ou d'en faire un second alors qu'on en a déjà fait un premier.
Ça veut dire activité physique douce, marche, randonnée. On va pouvoir aller au-delà d'une heure à partir du 11 mai, a priori. C'est vrai que cette période de confinement a ralenti clairement l'activité physique de chacun d'entre nous.
C'est un des risques du confinement, effectivement. Moins d'activité physique, une alimentation probablement moins équilibré, moins varié, avec du grignotage, plus de sucre, plus de gras. Voilà, donc la malbouffe et l'activité physique régulière qui diminue sont des facteurs qui peuvent augmenter le nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Ça fera partie des facteurs, des éléments que l'on va regarder dans l'enquête qu'on est en train de mettre en place sur la région.
Voilà, il y en a qui mangent moins bien, il y en a qui mangent peut-être mieux parce qu'ils prennent tous les repas à la maison, qui se sont mis à faire leur pain, qui se sont mis à cuisiner en famille. Je pense que ça marche dans les deux sens, il y a un peu des deux extrêmes.
C'est possible.
Effectivement, on va parler justement des réflexes qu'il faut avoir dès qu'on a détecté les signes de l'AVC. Et vous nous avez donné ces trois signes d'alerte il y a quelques minutes sur France Bleu. Paralysie du visage, difficulté à parler ou à comprendre et paralysie ou faiblesse d'un membre, d'un bras ou d'une jambe. Si vous avez envie d'intervenir dans cette émission, si vous avez envie de témoigner parce que vous avez eu un AVC et que vous avez été bien pris en charge, que ça a peut-être changé votre hygiène de vie, on vous attend au 05 46 35 24 44. C'est La Vie en Bleu, 100% solidaire, votre émission. Et si vous avez envie d'intervenir sur 05 46 35 24 44, nous parlons de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, avec François Rouanet, qui est neurologue au CHU de Bordeaux et vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Je vous propose, François Rouanet, d'accueillir le témoignage de Denise, qui est en Charente-Maritime, à Hénande. Bonjour Denise.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Merci. Je voulais apporter mon témoignage parce que mon mari a du mal à s'exprimer malheureusement. Il a fait un AVC au mois d'octobre 2019. Et on s'en est pas rendu compte parce que c'est arrivé d'un coup en pleine nuit.
Oui.
Il était minuit. Il s'est levé pour aller aux toilettes. Quand il est revenu, il arrivait à marcher et il ne pouvait plus parler. Et au fur et à mesure qu'on voyait, il avait son visage à tous les symptômes que le docteur a dit, quoi. Alors, on a appelé le 15, et les pompiers sont arrivés. Ils l'ont emmené aux urgences de La Rochelle, ils lui ont passé un scanner, et le problème, c'est qu'on pouvait pas lui donner un produit pour enlever l'hémorragie du cerveau, parce que il en a refait un deuxième à l'hôpital, il avait plus de 25 de tension. Donc, on n'a pas pu le soigner tout de suite. Il est quand même resté en neurologie. Et puis, il a toujours son aphasie, parce qu'il a du mal à parler. Et il a des choses qu'il ne peut plus faire.
Voilà. Oui, j'entends. Oui. Alors, merci Denise pour ce témoignage qui, malheureusement, illustre tout à fait ce que je viens de dire, vous l'avez bien dit. Ça vient tout d'un coup, le langage, la faiblesse, c'était probablement le côté droit qui était paralysé chez lui,
voilà,
ou qui était
oui,
plus
oui.
faible. Ouais, c'est ça. Voilà.
Oui.
Et vous avez eu finalement le bon réflexe, c'était d'appeler le 15, d'appeler les secours, parce que le diagnostic d'accident vasculaire cérébral, tout médecin qui aurait vu votre mari à la maison en ce moment, voilà, aurait fait un diagnostic d'accident vasculaire cérébral. Mais ce qui est important, c'est de faire... Voilà, même vous, vous l'avez compris. Mais comme je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Ceux quand une artère se bouche, c'est le plus souvent. 4 fois sur 5, c'est comme ça. Et 1 fois sur 5, c'est exactement l'inverse. C'est une artère du cerveau qui se déchire avec un saignement dans la tête. Donc, soit un caillot qui bouche le tuyau qui éclate et qui saigne dans la tête. Et bien évidemment, les traitements sont absolument opposé selon que l'on ait un saignement ou une artère bouchée. La seule façon de savoir si c'est une artère qui s'est bouchée ou une artère qui s'est déchirée, c'est de faire ce qu'on appelle une imagerie du cerveau. Vous avez parlé du scanner qui a été fait à La Rochelle. Il n'y a que le scanner ou l'IRM qui permet de dire artère bouchée ou artère déchirée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à se poser la question de quel type de traitement je vais pouvoir donner à ce patient qui arrive et depuis combien de temps cela a commencé. Donc voilà les explications. Après, les types de traitements, si je comprends bien ce qui est arrivé à votre mari, même voilà, c'était probablement une artère bouchée et à cause d'une
tension.
Ah, c'était un saignement, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il avait une tension vraiment très élevée. Vous avez dit 24 hein, tout à l'heure.
25,
oui.
Même, voilà. Je crois.
Ouais.
Il avait tellement une forte tension qu'on n'a pas pu lui donner un traitement tout de suite pour arrêter l'hémorragie.
Alors, arrêter l'hémorragie, la première des choses, c'est justement de faire baisser la tension. La tension artérielle, c'est la pression qu'il y a dans les tuyaux et qu'il y a dans les artères qui vont irriguer le cerveau. Il avait déjà des problèmes de tension, il était hyper tendu.
Oui, il avait un petit peu, mais c'est léger.
Voilà. L'hypertension, alors, c'est vraiment très très fréquent dans les accidents vasculaires cérébraux, hein, 4 fois sur 5. Si vous veniez ce matin faire la visite aux soins intensifs à Bordeaux, ben, 4 patients sur les 5 ont de la tension artérielle. La moitié le savait, l'autre moitié le savait pas, et parmi ceux qui le savaient, il n'y en avait que la moitié qui avait un traitement qui permettait de faire baisser la tension suffisamment pour éviter l'AVC. Donc c'est vraiment un problème aussi très important pour éviter de faire les AVC.
Merci beaucoup, Denise, de votre témoignage ce matin.
Je vais vous dire autre chose, c'est que le problème en ce moment, c'est qu'il a besoin de l'orthophonie.
Oui.
Et comme il a plus de 70 ans, et les orthophonistes, ils n'ont pas pu, avec le virus, reprendre des activités normales.
Vous avez tout à fait raison, ça fait partie.
C'est ça le problème. Alors, je voudrais quand même remercier à l'antenne toute l'équipe de centre rééducation du centre Richelieu à La Rochelle, qui ont fait un travail vraiment formidable.
Voilà. Merci de ce bel hommage, Denise, et merci de ce témoignage. Vous êtes nombreux déjà à composer le 05 46 35 24 44 pour témoigner ce matin sur France Bleu, sur l'AVC. Je vous propose d'accueillir Régine. Régine, vous êtes à Jancey, votre compagnon a fait deux AVC.
Il a eu deux AVC. Et puis, il a été très bien soigné par l'hôpital de Poitiers, qui a fait le nécessaire. Bon, d'abord, j'avais appelé le SAMU parce qu'il était paralysé de la main, puis le visage et la bouche de travers. Ensuite, ça fait maintenant 3 ans. Au bout de 2 ans, après cet AVC, il a eu des séances d'orthophoniste pour parler parce qu'il n'avait plus la parole pendant 2 ans. Et puis là, il va bien. Et voilà, je suis contente. Je remercie tout ce personnel qui se sont très bien occupés de lui.
Merci de ce témoignage, parce qu'effectivement, oui, on peut récupérer d'un AVC. C'est ça qui est important dans le message que vous nous donnez, Régine. Et on vous souhaite une belle journée à Jancey. Éléonore, vous êtes en Charente-Maritime, vous êtes à Étré. Et vous avez une question intéressante concernant l'AVC ce matin.
Oui, bonjour docteur, mes hommages.
Bonjour Éléonore.
Tout ce travail dans la région. Il y a un médicament pour fluidifier le sang. Comme moi, j'ai 76 ans, j'ai peur que mon sang s'épaississe. Et je voudrais savoir aussi si, quand on met les jambes à hauteur, si le cœur peut en bénéficier de cette attitude. Et puis aussi, s'il y a un régime particulier pour justement aider ce sang qui est si précieux dans la régularisation du système en général. Et je voudrais savoir tout ça, quoi, docteur.
Merci. 3 questions pour vous, François Rouanet.
Voilà, on va commencer par les jambes en l'air. Ça n'a pas un intérêt majeur pour améliorer la circulation. Ça permet simplement au sang qui peut rester dans les jambes de revenir plus facilement vers le cœur, mais ça ne prévient pas les accidents vasculaires cérébraux. Sur le régime et l'alimentation, il n'y a pas de régime particulier qui ait véritablement montré que ça permettait de réduire le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention aux graisses, il faut faire attention au sucre, pas trop non plus, mais surtout au sel. Éviter de trop saler notre alimentation, parce que un excès de sel fait monter la tension artérielle, et la tension artérielle peut favoriser la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Donc dans l'alimentation, attention au sel. C'est ça qui me paraît le plus important. La première question... Je vous en prie.
Sur le médicament, pour fluidifier le sang,
c'est ça. Votre première question sur j'ai 70 ans, c'est je veux fluidifier mon sang pour qu'il soit moins épais. Alors, il existe effectivement des médicaments qui permettent de rendre le sang plus fluide, plus liquide, et c'est ce que l'on donne aux patients, mais quand ils ont déjà fait un premier accident vasculaire cérébral, c'est pour éviter qu'ils en fassent d'autres. Le premier d'entre eux, c'est l'aspirine à petite dose. Mais il y a aussi des médicaments anticoagulants qui ont cette propriété. Il faut pas les prendre sans indication médicale. Il faut pas les prendre comme ça et se dire je vais prendre un peu d'aspirine tous les jours. Ça ne protège de rien et l'aspirine, comme tous les médicaments, et Dieu sait qu'on parle beaucoup de certains médicaments actuellement, tous les médicaments ont des inconvénients. Et l'aspirine peut déclencher des saignements au niveau de l'estomac ou du gros intestin et ça peut avoir des conséquences tout à fait importantes sans qu'on ait véritablement un bénéfice pour éviter la survenue d'un accident vasculaire cérébral ou d'un infarctus du myocarde, c'est-à-dire rendre le sang plus liquide pour éviter que les artères se bouchent. Donc, oui, il existe des médicaments, mais il faut pas les prendre sans un avis médical et sans une bonne raison pour le faire, c'est-à-dire des artères qui sont déjà un peu abîmées par l'âge ou un peu encrassées par trop de tension, trop de cholestérol, trop de sucre, c'est-à-dire du diabète, ou trop de tabac aussi.
On y reviendra justement sur ces facteurs.
Le café, c'est mauvais.
Non.
Le café, c'est mauvais, docteur?
Non, le café, non. Mais c'est comme non. Tout, hein. C'est une question de quantité et de dose. Un peu, c'est oui. Bien, trop, c'est moins bien.
Oui. Merci et beaucoup, Éléonore, de votre question ce matin dans la... 9h45, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans La Vie en Bleu 100% solidaire. Nous parlons de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral et nous sommes tous concernés. C'est pour cela que nous faisons l'émission ce matin avec François Rouanet qui est neurologue au CHU de Bordeaux et vice-président de l'association AVC Tous Concernés. Beaucoup d'appels au 05 46 35 24 44. Marie-Vonne, vous êtes à La Rochelle. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour à tous et merci beaucoup. Docteur, je suis soignée pour de l'hypertension, j'ai 78 ans. Je suis soignée par hypertension depuis au moins 30 ans. Maintenant, on vient de me donner un troisième médicament parce que j'ai monté jusqu'à 26.
Hein, 26 de tension, ouais, c'est ça.
Oui, c'était très très important. Ce qui peut un peu peut-être me sauver, c'est que je le sens dans la mesure où ma nuque devient raide et je suis un petit peu déséquilibrée. Mais je voulais savoir, parce que papa est décédé à l'âge de 47 ans dans la journée de ça, hein, il s'est senti mal à 9h, à 3h, il était parti, ben en 54, on ne soignait pas du tout comme maintenant. Mais
non, pas du tout.
M'inquiète... Pas du tout. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je fais beaucoup, beaucoup d'apnée du sommeil. J'ai eu 2 contrôles. On me dit que je peux avoir un AVC, mais je ne supporte absolument pas cet appareil. Alors, je ne sais plus quoi faire et je voudrais votre conseil.
Voilà la réponse de François Rouanet, neurologue.
Alors, bonjour d'abord. Merci pour ce que vous témoignez. Votre chiffre de tension qui est à 25 de temps en temps, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut répéter parce que la tension, quand on prend la tension, on donne 2 chiffres. Le cœur, il pompe et il se relâche. Le premier chiffre correspond au moment où le cœur vient de pomper, c'est le moment où il y a le maximum de pression dans les artères. Et donc c'est le premier chiffre, c'est le 25 que vous donnez. Et le deuxième chiffre, c'est le moment où le cœur se relâche, où le sang revient vers le cœur, et c'est la pression qui reste dans les artères alors que le cœur est au repos. C'est le premier chiffre qui est le plus important, et on considère que il faut pas qu'il soit supérieur à 14 centimètres de mercure ou 140 si on prend la tension avec un appareil électronique, c'est pareil. Hein, donc c'est 140 et la tension, ça se prend au repos. C'est pour ça aussi qu'on propose aux personnes qui ont de la tension d'acheter un appareil à tension et de se prendre eux-mêmes la tension chez eux, tranquille, à la maison, pour éviter ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, hein, c'est-à-dire un peu de stress induit par le fait qu'il y a un professionnel de santé qui s'occupe de vous.
Donc, mais vous pouvez enlever la blouse blanche quand même, François Rouanet, dans ces cas-là, non?
Pas ces temps-ci, non, au contraire, on met un masque
moment, non,
et plein
vrai.
D'autres trucs.
Ouais, tout à fait.
Non, mais voilà, on appelle ça comme ça, mais ne serait-ce que le fait d'aller consulter un médecin en cabinet ou à l'hôpital, ça c'est quand même un petit facteur d'inquiétude supplémentaire qui peut faire monter la tension. La tension artérielle, c'est parfois quelque chose de familial, et c'est ce que vous disiez par rapport au problème de votre papa. Et on en a vraiment maintenant pris conscience, hein. C'est quelque chose de très important. La tension, sur le long terme, sur des années, ça finit par abîmer les artères qui peuvent ou se boucher ou se déchirer. C'est pour ça qu'il faut soigner cette tension artérielle. Alors quand vous montez très haut, vous pouvez avoir des symptômes, mais 16 ou 17 de tension de façon répétée, c'est déjà trop et il faut donner un traitement. Alors souvent, on ne peut pas échapper aux médicaments, même si, là encore, l'activité physique régulière, marche à pied tous les jours, 30 minutes d'un bon pas, diminuer la prise de sel, ne plus mettre la salière sur la table, ça permet de faire baisser un peu la tension, mais le plus souvent, ça suffit pas, il faut donner des médicaments. Et c'est ce que vous disiez aussi, hein, on est parfois obligé de donner 1, 2, 3 médicaments différents, parfois 4, parfois même 5, pour ramener les chiffres de tension dans des valeurs normales, pour éviter que la personne ne fasse des complications par la suite. Voilà, ouais. Donc dans le confinement, alors moi j'ai eu ça l'autre jour en consultation, en téléconsultation, puisque les patients viennent plus, donc on les appelle et on les voit en visio. C'était un patient qui était hyper tendu, qui avait un traitement, mais il n'était pas allé renouveler son ordonnance de peur de sortir, pensant que la pharmacie serait fermée, qu'il trouverait pas ses médicaments. Donc c'est pas vrai, hein, il faut pas arrêter les traitements, quels qu'ils soient, antihypertenseurs, des médicaments pour fluidifier le sang, des médicaments pour le diabète, pour le cholestérol. Il faut poursuivre les médicaments et aller chez le pharmacien renouveler les ordonnances.
Cécile nous appelle de La Rochelle et vous souhaitez témoigner, Cécile, parce que vous avez fait, il y a un an maintenant, un AVC. Nous avons perdu Cécile. Je pense que Sylvie de Secondini, dans les Deux-Sèvres, est avec nous ce matin sur France Bleu.
Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Oui, voilà, je suis Sylvie Thierry. Je vous appelle parce que en février dernier, j'ai fait ce qui s'appelle un AIT ophtalmique droit. C'est-à-dire que j'étais à la maison et tout d'un coup, ma vue s'est complètement voilée, sauf que moi, je vois que d'un œil de naissance. J'ai l'œil gauche, j'ai zéro, l'œil droit, je vois. Et à ce moment-là, ma fille qui est infirmière était là, et je lui dis, je te vois tout flou, comment ça se fait? Elle me dit, c'est bizarre quand même, puis ça a duré, allez, 5 minutes, et c'est revenu. Bon, voilà, donc je suis restée comme ça, mais j'avais quand même toujours une petite gêne de loin. Donc le lendemain, je suis repartie à mon travail, car j'ai que 57 ans. Et j'ai reparti à mon travail, et au soir, en arrivant, mon mari me dit, comment ça va? Mais j'ai dit, j'ai toujours cette gêne de loin. Il me dit, je t'emmène aux urgences. Moi, je voulais pas trop. Je dis, tu parles, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Voilà, donc je suis allée aux urgences, arrivée aux urgences, ils m'ont fait un scanner, aussitôt, hein, j'ai très très bien été pris en charge, rien à redire. Ils m'ont fait un scanner, de là, ils m'ont dit, on vous garde, on aperçoit des traces d'AVC, donc il faut passer un IRM pour plus de précision. Donc on vous garde en neurologie, en soins intensifs. Bon, voilà, partie là-bas. Le surlendemain, ils me passent un IRM, ils ont venu, effectivement, elle m'a dit, à l'œil droit, vous avez probablement fait un AIT. Mais ce qui est le plus embêtant, c'est que dans votre IRM, on aperçoit que vous avez fait un AVC, mais ultérieurement. Alors, ce qui m'a énormément surpris, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire un AVC sans s'en rendre compte, en fait.
C'est ça qui est intéressant dans votre témoignage, Sylvie, effectivement. François Rouanet.
Si je n'étais pas allée à l'hôpital, qu'est-ce qui risquait de se produire?
Alors il y a trois éléments qui me paraissent importants. D'abord, le trouble de la vue fait partie des signes d'AVC. C'est pas un signe très très fréquent, mais vous le racontez très bien, hein, c'est perte brutale de la vue d'un œil ou d'une moitié du champ visuel. On voit plus à droite, on voit plus à gauche. Donc là, pareil, hein, c'est peut-être un AVC. Il faut appeler le 15, même si ça paraît anodin. Le deuxième élément important, c'est ce que vous dites très bien. En 5 minutes, c'est allé mieux, et donc finalement, j'attendrai. On verra demain comment ça va. Et le lendemain, ça allait pas. Franchement. Bien mieux que ça. Et vous avez peut-être un peu perdu de temps. Donc c'est ce qu'on appelle un accident transitoire. Il y a une amélioration notable entre le premier épisode et la suite. Et puis le troisième élément, c'est que sur l'IRM, qui est l'examen le plus puissant que l'on puisse avoir pour regarder le cerveau, hein, le plus précis, cet examen a montré des signes d'AVC plus anciens probablement, ce qu'on appelle des AVC silencieux. Et qui sont malgré tout des artères du cerveau qui se bouchent, mais dans des zones du cerveau qui ne s'occupent pas de fonctions majeures, et donc ces AVC peuvent passer totalement inaperçus, et on les découvre quand on fait une imagerie cérébrale, et notamment un IRM.
On va accueillir un dernier témoignage parce que leur fil a une vitesse astronomique, c'est toujours impressionnant. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup d'appels d'auditeurs, ça veut dire que le sujet intéresse les auditeurs de La Vie en Bleu 100% solidaire, et ça c'est une bonne nouvelle. On va accueillir Marie de Viennet dans les Deux-Sèvres. Vous avez envie de témoigner parce que vous n'aviez pas les symptômes classiques qu'on a décrits tout à l'heure avec François Rouanet.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour Marie.
Moi, j'ai perdu la parole.
Je ne pouvais plus lire, je ne savais pas ce que je lisais. J'étais avec une dame qui était à côté de moi, une voisine, elle me parle de mes enfants. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Enfin bref, donc on a appelé les pompiers, j'ai été hospitalisée et on m'a passé ce qu'on appelle un angioscanner. Et en fait, j'avais une plicature au niveau de la carotide gauche qui a fait que cette plicature a fait un bouchon, alors sérieusement, à un niveau. Et puis donc, j'ai été opérée sur Poitiers et ça s'est très bien passé. Voilà. Et donc, cet AVC, c'était plutôt un accident ischémique transitoire, mais quand même qui aurait pu avoir des conséquences. Voilà, c'est une piqûre que j'avais certainement de l'enfance, parce que j'ai souvent eu dans ma vie des petits problèmes visuels, des petites choses qui ne paraissaient pas normales, mais on n'y prêtait pas forcément attention. Alors je pense qu'au fil des années, étant donné que j'avais 72 ans quand j'ai été opérée, le sang, il se charge de... Évidemment, il n'est pas si fluide, et là, à ce moment-là, ça s'est complètement bouché.
Mais merci beaucoup Marie de votre témoignage ce matin dans La Vie en Bleu sur des symptômes qui sont pas les symptômes qu'on a décrits effectivement tout à l'heure, parce que évidemment chaque cas est particulier. Et il nous reste à peu près une minute, François Rouanet, pour conclure cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut rappeler en matière de prévention et d'hygiène de vie?
Pour l'hygiène de vie, c'est pour les patients qui ont des traitements, ne pas les arrêter, ou en tout cas pas sans l'avis de leur médecin. Pour tout le monde, c'est avoir une activité physique, de la marche à pied par exemple, ou du sport si on en faisait avant, mais régulièrement et tous les jours. Faire attention à ce que l'on mange, éviter le sel, éviter le sucre. Si on est hypertendu, bien prendre ses médicaments, et si on ne l'est pas, se faire surveiller la tension artérielle au moins une fois par an par son médecin généraliste ou dans une pharmacie, voire même acheter un appareil à tension. Et puis surveiller son pouls, c'est-à-dire le rythme du cœur, en prenant le pouls au poignet au niveau de la carotide de temps en temps. Bien évidemment, il ne faut pas trop se prendre la tête avec tout ça.
Voilà, on aura noté. Donc continuez le traitement si vous avez des traitements, de l'activité physique, c'est important, et une alimentation équilibrée, pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de gras non plus. Merci infiniment François Rouanet, neurologue au CHU de Bordeaux et vice-président de l'association AVC Tous Concernés, d'être intervenu en direct depuis Bordeaux pour cette émission sur France Bleu Poitou et France Bleu La Rochelle.